Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molliman.
Dialogue direct entre gouvernement et groupe armé. Les réactions commencent à tomber au Nord Kivu et Sud Kivu, mais aussi en Ituri. Ici, les acteurs politiques voient une lueur d'espoir pour la paix. Mais la coordination provinciale de la société civile de l'Ituri estime que cette démarche ne devrait pas laisser impunis les crimes commis par ces groupes armés. Dans la province de la Tchopo, les importateurs de produits pétroliers de l'Est de la RDC ont fermé leur station-service depuis hier et c'est pour 2 jours. Ils protestent entre autres contre la prise en otage de 10 personnes, dont 2 chauffeurs de camions-citernes par des rebelles ADF. Nous recevons dans cette édition du journal Innocent Kadekere. Il est directeur provincial de l'Institut national des statistiques Sud Kivu. Avec lui, nous évoquerons la situation des enfants qui exercent des travaux dangereux dans les zones minières artisanales des Calais. Ils sont près de 52%. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, les avis sont partagés après l'annonce d'un dialogue direct entre le gouvernement congolais et les groupes armés locaux, tel que décidé par la communauté des États d'Afrique de l'Est, jeudi à Nairobi au Kenya. Si les acteurs politiques pensent que c'est une lueur d'espoir pour la paix en Ituri, en revanche, la coordination provinciale de la société civile estime que, aussi louable qu'elle soit, cette démarche ne devrait pas laisser impunis les crimes commis par ces groupes armés. Marcel Kizabiamungu.
C'est depuis plus d'une décennie que des groupes armés sont signalés dans la province de l'Ituri, jadis un des districts de l'ancienne province orientale. Certains miliciens ont été démobilisés entre 2005 et 2006, mais d'autres sont restés en brousse, notamment la FRPI. 12 ans après, à partir de décembre 2017, les violences vont refaire surface dans les territoires de Djougou. L'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, IRDPC Barkodeko, est le plus actif. Dans son cahier de charge, cette milice exige l'amnistie pour tous ses membres, l'enrôlement au sein des FRDC ou encore la libération de leurs membres en prison. Par rapport au dialogue de Nairobi, la CODECO dit attendre une invitation officielle de Kinshasa. Cependant, ce mouvement s'est dit favorable au processus des DRCS. Au sud de la province, c'est la même situation dans les territoires d'Irumu, avec la présence de nombreux groupes armés dont la FPIC et la FDBC. La FPIC, quant à elle, s'est dit favorable au pourparler direct avec le gouvernement congolais, même si selon son porte-parole, elle n'a pas encore été contactée par Kinshasa. Bounia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Alors, notons que quelques groupes armés locaux opérant dans les territoires d'Uvira, de Fizi, Tombwe, dans le sud Kivu, prennent part aux assises de Nairobi. Parmi eux, les groupes Yakutumba et Turaneo, pour ne citer que ceux-là, ainsi que d'autres groupes du Nord Kivu et de l'Ituri, vous le savez. Au sud Kivu, les acteurs de la société civile émettent des réserves sur la réussite de cette approche. Ils disent attendre la mise en œuvre des décisions de Nairobi sur le terrain. Et c'est au regard des échecs des négociations précédentes avec ces groupes, ainsi que les enjeux politiques régionaux, nationaux et communautaires. Fiston Goma.
Yakutumba est représenté à Nairobi par son porte-parole, tandis que le groupe Turwaneo est représenté par un proche membre de la diaspora basé à Nairobi. Les noms des autres délégués des groupes armés n'ont pas été révélés. Ils sont près de 70 groupes armés qui avaient pris part aux rencontres de Maurice à 1 et 2 et à d'autres rencontres d'Uvira. Beaucoup parmi ces groupes à l'époque souhaitaient leur intégration avec reconnaissance de leur grade dans l'armée, ainsi qu'une bonne prise en charge pour ceux qui choisiraient la vie civile. L'option réintégration dans l'armée a été banni dans le programme PDD-RCS, les acteurs de la société civile estiment que le vrai enjeu de Nairobi privilégie plutôt le M23, l'interlocuteur direct actuel du régime de Kinshasa dans ses assises. Pour ces acteurs, le même cause produisant le même effet, les accords avec le M23 n'ont jamais été révisés. Laisserait une brèche pour d'autres groupes armés de réintégrer l'armée, ainsi de revenir à la case de départ, des tristes brassages et intégration des groupes armés. Une approche qui risque de tacler celle adoptée par le PDD-RCS. D'Uvira, Fiston Momayabala, Radio Kapi.
Et puis sachez que ce dialogue s'ouvre alors que la province du Nord Kivu compterait entre 40 et 52 groupes armés à ces jours. C'est ce que révèlent les sources du programme de démobilisation et réinsertion communautaire PDD-RCS. Ces groupes armés, Bernard Nyangi, dont le M23, ont chacun diverses revendications.
En plus du mouvement rebelle du 23 mars M23, environ une cinquantaine d'autres groupes armés sont identifiés au Nord Kivu. Pour les sources sources du PDDRCS. Parmi les grands, dans le territoire de Walikale, on peut citer le Kifuofua de Delphin Baenda et un des rénovés de Guidon Chimurai. Dans le territoire de Masisi, on a l'APCLS de Janvier Kalaheri, le NDC rénové de Bouira et Mapenzi, le groupe IPDC de Billy Koliko, Maemae Lamuka de Noah Machano, FDDH de Doussabe. Parmi les dizaines qu'il y a en territoire de Rutshuru, on peut citer l'AFRC de Kakule Jetem, le FDLR, alors qu'à Lubero et Beni, on a entre autres le FPP de Kabidon, les Maïmaï Léopard et UPLC de Mayani, entre autres. Pour un animateur de PDDRCS à Goma, une dizaine de ces groupes ont déjà adhéré au processus de reddition volontaire en abandonnant leurs revendications. Plus de 1000 de leurs combattants et leaders sont déjà passés par l'opération d'identification biométrique en cours sur le site de Mubambiro en attendant le lancement de la réinsertion communautaire. Mais pour le M23 en particulier, les principales revendications restent entre autres la sécurisation des terres de leurs combattants et le retour en RDC de dizaines de milliers de leurs parents réfugiés en Ouganda et au Rwanda. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, début ce vendredi du débat général sur la proposition de loi électorale sous examen à l'Assemblée nationale. Avant de soumettre cette proposition de loi au débat, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec la classe politique et les corps diplomatiques accrédités en RDC en vue de rechercher les consensus politiques. Au cours d'un échange hier jeudi avec Christophe Mbosso, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO s'est enquérie de l'évolution des discussions sur la réforme de la loi électorale au sein de l'Assemblée nationale. Madame Bitou Keïta est au micro de Michel Kifindangoy.
C'est une continuité de dialogue avec le président de l'Assemblée nationale et son équipe pour prendre la température de où est-ce que nous sommes avec les discussions concernant la réforme de la loi électorale, les positionnements des uns et des autres, comprendre un petit peu c'est quoi les dynamiques et surtout d'encourager toutes les parties prenantes à faire en sorte que dans le contexte des institutions, les débats puissent avoir lieu sur la réforme de cette loi électorale qui est tant attendue, de manière à ce qu'on puisse cheminer vers un processus électoral transparent, crédible, apaisé et inclusif. Le deuxième aspect que nous avons discuté, c'est la situation à l'est du pays, donc l'insécurité, et notamment d'examiner comment est-ce que la mise en œuvre de l'état de siège a un impact sur la vie des populations et que on ne les attaque point.
Nous l'avons dit au sommaire, dans la province de la Tchopo, les importateurs de produits pétroliers de l'Est de la RDC ont fermé leur station-service pour 2 jours à partir d'hier jeudi. En cause, le décès d'un chauffeur d'un camion-citerne, l'incendie des 2 camions-citernes transportant au total 80 mètres cubes de carburant partis en fumée, ainsi que la prise d'otages sur le tronçon Bunia-Mahagi des 10 personnes dont 2 chauffeurs amenés en forêt par des présumés rebelles de l'ADEF et libérés hier moyennant le paiement d'une rançon. En dépit d'un compromis trouvé entre le gouverneur de province et le président de ses importateurs, la spéculation est observée déjà chez les revendeurs du carburant dans les rues de la ville. Jacques Moukonkolé.
Hier jeudi et ce vendredi, quasiment toutes les stations-service de carburant provenant de l'Est du pays restent fermées. Selon le président des importateurs du carburant à partir de l'Est, Kip Tamboué, ils observent notamment un deuil en mémoire du chauffeur décédé calciné par les présumés ADEF.
Nous avons fermé nos stations pour honorer la mémoire de celui qui est décédé calciné et aussi de ceux qui sont aujourd'hui à des différentes forêts.
La fermeture des stations-service a entraîné la spéculation chez les revendeurs communément appelés Kadhafi. 1 litre d'essence vendu à 2750 francs congolais à la pompe est passé brusquement à 5000 francs congolais. Et c'est en dépit du compromis trouvé entre le gouverneur de province par intérim Maurice Abibou Sakapela et le président de ses importateurs. D'après ce modus vivendi, 3 stations doivent fonctionner pour soulager la population.
La station Taksem, à côté de la résidence de l'honorable Tokole, il y a aussi 2 stations Glody, c'est-à-dire la station Glody aux environs du bureau de l'ANER et celui de 5e avenue Kabondo seront opérationnels.
Le président des importateurs des produits pétroliers de l'Est prévient que si la sécurité n'est pas assurée sur la RN4, Kisangani risque de connaître la rupture du carburant dans les prochains jours. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis, il est difficile ces derniers jours pour les fonctionnaires et agents de l'administration publique, surtout pour les enseignants du territoire d'Idiofa, de percevoir leur argent à la banque. À la base, une seule banque, c'est-à-dire à Freeland, existe dans ce coin et effectue la paye de près de 30 à 40 000 agents qui viennent de tous les coins éloignés du territoire pour chercher ce salaire à Idiofa Cité. D'après la nouvelle société civile locale qui le déclare, cette banque est visiblement débordée pour servir tout le monde au bon moment. Son coordonnateur Arsène Kassiama sollicite des autorités attitrées l'installation d'autres banques à Idiofa et à Freeland, l'ouverture d'autres guichets afin de faciliter la tâche à ces agents de l'État qui souffrent. Irène Bouma.
La nouvelle société civile d'Idiofa indique qu'avec 3 guichets seulement, à Freeland, l'unique banque présente dans ce territoire n'est pas à mesure d'effectuer la paye de tous ces milliers d'agents et fonctionnaires de l'État. Arsène Kassiama est le coordonnateur de cette organisation citoyenne. Il fait savoir qu'à cause de cette situation, ces derniers peinent énormément avant de recevoir leur salaire mensuel dans cette banque. Pour résoudre la dite situation, il plaide pour l'installation des autres banques dans les territoires d'Idiofa.
C'est une banque qui paye plus de 30, 40 000 agents, mais pour terminer la paye d'un mois, il peut prendre 2 mois. Il y a des enseignants qui viennent à une distance de plus loin, vers 500 km, pour venir recevoir la paye avec 3 guichets seulement. Moi, j'ai vu un enseignant qui avait perdu la vie. Il y a beaucoup de diabétiques. Ces gens-là souffrent sérieusement pour recevoir la paye. Les gens des banques, la mère, ont érigé des tentes devant la banque. Dès que vous sortez de la banque, ces gens-là tombent sur vous pour prendre leur argent. Notre plaidoyer est que l'on puisse avoir une autre banque, soit alimenter la CADECO pour faciliter la paie des agents, ouvrir des guichets au lieu des 3 guichets.
Arsène Kassiama appelle ces agents qui souffrent à prendre leur mal en patience. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, a présenté hier jeudi à la presse le nouveau juge congolais élu premier vice-président à la Cour commune des justices et d'arbitrage, CCJA. Jean-Marie Kambouma, c'est de lui qu'il s'agit, a été élu à la 52e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA, tenu à Niamey au Niger du 14 au 15 avril. La ministre explique ici l'intérêt qu'a la RDC d'avoir un juge à la CCJA. Elle est au micro de Jeff Ngoy.
Il faut reconnaître qu'on a des tribunaux de commerce et que la RDC est parmi les pays qui produit beaucoup de décisions rendues par ces tribunaux de commerce dans le cadre de climat des affaires et qu'il est important qu'il y ait quand même un de nous à l'intérieur puisqu'on a trouvé un état des lieux quand même qui est inquiétant par rapport aux différents contentieux de la RDC. On a beaucoup de contentieux où la République démocratique du Congo est condamnée et que si on a un juge, on est informé des procédures. Parfois, on est condamné puisque l'information ne passe pas ou puisque les gens font à dessein pour que l'information n'arrive pas au niveau de la République pour qu'on puisse dépêcher des avocats. Et si on a un juge, il y aura un suivi et nous serons toujours au rendez-vous pour les différents contentieux ouverts à notre égard.
Alors, pour être élu juge à la Cour commune de justice et d'arbitrage, il faut avoir accompli 15 ans dans la magistrature d'un des pays membres. Et l'actuel juge qui succède à un autre Congolais a fait 25 ans dans la magistrature. Jean-Marie Kambouma parle de la mission de cette Cour et de l'apport de sa participation pour la RDC. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Comme le principe est que les juges sont élus par le Conseil des ministres, la 52e réunion du Conseil des ministres a eu lieu. Le mandat est de 7 ans. Il prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'élection. Et la mission de la Cour, en fait, la Cour, c'est une juridiction de cassation par rapport aux décisions rendues au degré d'appel dans les 17 États membres de l'OADA. Donc, en fait, la mission de cette juridiction, c'est de dire le droit, c'est de rendre justice, de trancher les litiges et donc de gérer les contentieux commerciaux au niveau de la cassation.
Qu'est-ce que votre participation à la CCJA apporte comme valeur ajoutée, comme un plus à la RDC?
C'est d'abord un prestige pour la République d'avoir un de ses fils dans une juridiction internationale, une juridiction communautaire. Et tout compte fait, notre mission c'est de dire le droit. Donc nous sommes assujettis à toutes les règles relatives à cette mission.
Notons que l'OADA est une organisation régionale qui a pour objet l'harmonisation du droit des affaires au sens assez large par l'élaboration des règles communes simples adaptées aux économies des 17 pays africains membres et par aussi la promotion de l'arbitrage.
Actualité internationale.
Au Gabon, Ali Bongo a effectué le 20 et 21 avril dernier sa première visite officielle dans une province du pays depuis son accident vasculaire cérébral il y a 4 ans. Le président gabonais a notamment séjourné à Makoukou dans l'Est. Ces déplacements officiels du chef de l'État en province avaient pour but de donner le coup d'envoi de manœuvres médico-militaires organisées par l'armée gabonaise au profit de la population de cette région actuellement la plus enclavée du Gabon. Et puis en plus bref, l'ancien président kényan Waiki Baki est décédé ce vendredi à l'âge de 90 ans.
L'invité.
52% des enfants exercent des travaux dangereux dans les zones minières artisanales de Kalehe. Une situation presque similaire est observée aussi dans le territoire de Minova. C'est ce qui ressort des résultats d'une étude menée par l'Institut national de statistique Sud Kivu. Comment cette étude a-t-elle été menée et pour quelle fin? Tentative de réponse avec Innocent Kadekere, directeur provincial de l'INS Sud Kivu. Il est notre invité dans cette édition du journal. Suivez.
Innocent Kadekere, bonjour.
Bonjour, madame.
Parlez-nous des résultats de cette étude sur la situation des enfants dans les zones minières.
En parlant des résultats, je vais commencer par la situation du travail des enfants dans les zones minières, particulièrement dans les zones de santé qui ont été couvertes par l'étude. Quand on voit les travaux dommageables, nous entendons par travail dommageable les travaux qu'exercent les enfants au-dessus du seuil spécifique à leur âge. S'agissant des enfants qui exercent les travaux dangereux, nous avons trouvé dans la zone de santé de Kalehe 52% d'enfants qui travaillent. Et dans la zone de santé de Minova, c'est 20% d'enfants. Quand nous disons conditions dangereuses, ce sont des conditions qui mettent en danger la vie des enfants. Les enfants qui travaillent avec des outils dangereux, les enfants qui travaillent dans de fortes températures, dans une forte humidité.
Pour quelle fin avez-vous mené cette étude?
Nous avons mené cette étude pour essayer de cerner la problématique de la privation des droits des enfants. Les enfants sont privés de leurs droits. Vous savez, pour suppléer aux revenus des ménages, les enfants aussi participent aux activités qui contribuent à améliorer les revenus des ménages. Avec le partenaire UNICEF, nous nous sommes engagés à vouloir cerner la situation des enfants qui sont dans le travail avant l'âge.
Comment avez-vous mené cette étude et pendant combien de temps pour arriver à ces résultats?
L'étude ou la collecte a été faite par 24 enquêteurs dirigés par 6 chefs d'équipe, supervisés par un superviseur, mais toute l'équipe était coordonnée par un coordonnateur. Et ce travail de collecte a fait 28 jours dans les deux zones de santé. C'est à travers cette étude que nous avons menée avec des méthodes appropriées et puis nous avons fait les analyses. On a croisé certains indicateurs. En croisant ces indicateurs, voilà, nous sommes arrivés aux proportions que nous sommes en train de vous communiquer.
Quel est l'objectif de cette étude et que visez-vous?
En réalité, l'Institut national de la statistique met à la disposition de l'autorité des évidences pour élaborer des programmes, des projets visant à renverser la tendance. C'est ça notre rôle. Et quant à l'autorité, d'agir. Mais nous lui montrons, voilà la situation.
Vous avez lancé officiellement les débuts des ateliers sur la dissémination des résultats de cette étude. Comment cela se fera-t-il?
Comme c'est une étude pointue, nous avons commencé par la ville de Bukavu, qui est la capitale de la province. C'est pour que d'abord l'autorité provinciale puisse s'approprier de ces résultats-là. Après, nous irons dans les zones où nous avons réalisé l'enquête, la zone de santé de Minova et la zone de santé de Kalehe. Dans ces zones, nous allons procéder maintenant à la dissémination des résultats, à la restitution des résultats. Tout en restituant les résultats, nous allons essayer de voir avec les acteurs clés de ces deux zones de santé, les organisations qui sont impliquées dans la protection des droits des enfants, on va essayer de formuler les réponses vis-à-vis aux indicateurs qui ont été renseignés. Nous allons les traduire en cahier de plaidoyer que nous allons soumettre maintenant à l'autorité provinciale pour élaborer des programmes visant à renverser la tendance.
Quels vœux ont émis les enfants que vous avez rencontrés faisant ces travaux dangereux?
on demande aux enfants leurs aspirations. Quelles sont vos aspirations du moment, vos aspirations futures? Que ce soit à Minova, que ce soit à Kalehe, les enfants aspirent à aller à l'école, poursuivre les études. Voilà pourquoi il est grand temps de rompre cette chaîne pour que les enfants aillent effectivement à l'école. C'est à cause de la pauvreté que ces enfants sont dans les mines. Ils ont proposé, pour qu'on arrive à rompre cette chaîne, les soutiens à leur ménage, à leur famille, par les activités génératrices des recettes. Et certains ont proposé un appui financier au ménage pour prendre en charge les soins médicaux et leur éducation.
Je vous remercie.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Willem Lungamba, coordonnée par Pierrot et la Mégie sous la supervision de Noëlla Lozitou. Merci de nous avoir suivis.